Voilà. Alors, on vous souhaite encore à tous encore une bonne année 2026. Nous croyons que cette année va être une année de réussite pour le Seigneur et pour chacun de nous, parce que le Seigneur veut, comme on l'a vu ce matin, nous donner encore une espérance, veut nous donner encore sa grâce et ses bontés. Comme nous l'avons souligné, donc on veut remercier vraiment chaque personne pour les dons durant toute l'année. C'est vrai que cette année, l'année 2025, était une année un peu plus difficile, mais Dieu a permis qu'on puisse terminer bien l'année. Même nous avons eu des dons de l'extérieur de l'Église, des anciens membres qui ont eu à cœur de nous aider aussi. Alors on veut aussi les remercier pour louer le nom du Seigneur, que Dieu reste fidèle. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler dans cette année que notre lumière brille en 2026. Amen. On est dans une nouvelle année avec un espoir que nous en pouvons vivre de belles choses, que certains de nos projets vont se réaliser, que la bonté de Dieu soit sur nous, sur nos familles. C'est vrai qu'une nouvelle année, c'est toujours un nouveau départ, des nouvelles résolutions pour réaliser ce qui nous tient à cœur, ce qu'on doit peut-être améliorer, ce qu'on doit changer, ce qu'on aimerait réaliser et vivre vraiment cette nouvelle année. Alors regardons au début de cette nouvelle année 2026 ce que Dieu désire nous donner au vivre avec nous. Alors ouvrons notre Bible dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 jusqu'au verset au chapitre 4 verset 2. 2 Corinthiens chapitre 3. On va lire le dernier verset du chapitre 3, 18, et jusqu'au verset 2 du chapitre 4. Il est dit: Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les intrigues et les procédures indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Prions. Seigneur, on veut te remercier pour ce temps, Seigneur, que tu nous permets où nous pouvons plonger nos regards dans ta parole. Que cette parole puisse, Seigneur, te refléter, que cette parole, Seigneur, puisse vraiment nous éclairer dans cette nouvelle année afin que nous puissions comprendre, saisir, Seigneur, ce que tu veux pour nous, ce que tu veux pour l'Église, ce que tu veux aussi pour ce monde, dans cette année 2026. Alors que, Seigneur, que ce soit ta parole qui parle ce matin, que ce soit ta parole, soit, Seigneur, la bouche, que ce soit ton esprit qui parle à travers ma bouche, pour que ce soit, Seigneur, ton nom seul qui soit proclamé encore ce matin. Nous te remercions, te louons, Seigneur Jésus. Amen. Donc, on peut se poser la question dans ce chapitre 3, pourquoi que Paul parle de ce voile? Et donc, je pense que quand il parle de ce chapitre, dans le chapitre 3, dans le verset 18, c'est qu'il se rappelle de Moïse. Hein. Rappelez-vous, Moïse a vécu un temps vraiment spécial avec le Seigneur sur la montagne du Sinaï. Et là, tellement que la gloire de Dieu reflétait sur son visage, que lorsqu'il est redescendu, son visage rayonnait, tellement que les gens d'Israël ont eu peur. Ils ont vu que face à Moïse, qu'ils n'étaient pas dignes d'être devant Dieu. Et voilà pourquoi ils ont demandé à Moïse de mettre un voile sur son visage, pour qu'ils ne puissent plus voir le reflet de Dieu, tellement peut-être ils étaient peut-être dans la honte de voir leur cheminement, de voir comment que ils ne respectaient pas ce que Dieu leur demandait de faire. Donc, prochain dia, dans le verset 18, il est dit que nous, en tant que serviteurs de notre Seigneur Jésus, nous avons été transformés justement par l'œuvre du Saint-Esprit et que nous reflétons comme Moïse la gloire de Dieu. Oui, dans cette nouvelle année, justement, nous aimerions refléter encore plus la gloire de notre Seigneur. Que l'éclat de sa gloire se voie dans notre vie quotidienne, dans nos paroles, dans nos actes. Ça devrait être notre première résolution. On aime toujours faire des résolutions au début de l'année, s'engager, dire, ben voici ce qu'on va faire de mieux cette année, voici ce qu'on va peut-être abandonner. Mais notre première résolution, c'est de refléter encore plus le Seigneur et la gloire de Dieu. Amen. Voilà pourquoi que dans le verset 1 du chapitre 4, Paul va encourager l'Église de Corinthe à ne pas perdre courage dans le ministère que Dieu leur a confié. C'est vrai qu'au début d'année, on espère toujours d'avoir une belle année, de vivre des projets, de voir Dieu se réaliser, de réaliser des choses dans notre vie, dans la vie de nos familles. Mais on doit rester dans la confiance parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer. Dieu seul le sait. Et voilà pourquoi qu'on doit aller dans le courage, dans l'espérance, en regardant toujours au Seigneur. Alors, quel est ce ministère? Quel est ce que le Seigneur veut nous confier dans cette année 2026? Il est dit dans le verset 2 de rejeter les intrigues et les procédures indignes. Donc, Paul pense sans aucun doute aux faux docteurs qui étaient justement, qui s'étaient infiltrés dans l'église de Corinthe. Leurs méthodes étaient celles qui ont toujours inspiré donc les forces du mal, à savoir l'incitation honteuse à pécher, de voir la grâce de Dieu partout puis de continuer dans la vie de péché, de peut-être falsifier justement la parole, de pouvoir peut-être diminuer les standards de la parole de Dieu. Le commentateur biblique MacArthur va dire: rejeter signifie se détourner de ou se repentir. Les actions visées, comme l'écrit justement sur le PowerPoint, sont des immoralités secrètes, l'hypocrisie ou tous les péchés cachés. C'est vrai qu'au moment du salut, chaque chrétien va se repentir, va se détourner de tels péchés pour consacrer sa vie à la poursuite de choses saintes. Mais c'est vrai que tout au long de nos vies, on peut avoir des choses qui sont secrètes. On peut avoir peut-être qu'on appelle ça des fois même des petits péchés cachés. Ah ben c'est pas grave, Dieu va me pardonner. Ah ben c'est pas grave, les autres le font. Tout à l'heure, comme on l'a dit, nous allons prendre la Sainte-Cène pour se rappeler encore dans cette année 2026 que Jésus-Christ est venu pour chacun de nous sur la croix pour payer à notre place le prix du péché. Et ce rappel justement, c'est que nous puissions vivre dans cette vérité et que le péché ne doit pas habiter en nous. Donc le premier acte que nous pouvons faire pour cette année 2026, c'est de rejeter, se détourner du péché, se repentir des péchés ou des choses qui peuvent peut-être nous ralentir dans notre marche chrétienne, qui peuvent être un obstacle à vivre pleinement la gloire de Dieu sur notre vie. Alors continuons la lecture justement de ce chapitre 4, versets 3 à 5. Il est dit: Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Là, Paul reprend le terme du voile pour expliquer qu'en tant qu'enfant de Dieu pardonné, en enfant de Dieu gracié et renouvelé par le sang de Jésus-Christ, nous n'avons plus ce voile devant nous, comme ceux qui nous entourent, qui ne comprennent pas la puissance libératrice du sang de Jésus-Christ. Donc Jésus est venu sur terre pour démontrer la gloire de Dieu, lui qui est à l'image de Dieu. C'est vrai que les gens ne veulent pas recevoir cette lumière de la bonne nouvelle qu'il est venu apporter. Et comme il est dit dans ce texte, le Dieu de ce monde travaille très fort pour détourner les personnes vers des choses futiles, mais qui permettent aux personnes de croire qu'ils ont la vie, qu'ils ont la richesse, qu'ils ont le bonheur, qu'ils ont la paix, qu'ils ont une joie peut-être à travers leur matériel, à travers leur richesse, à travers leur vie de tous les jours, leur accomplissement personnel. Voilà pourquoi que le mandat que le Seigneur nous a donné, qui nous a sauvés, qui nous a arrachés à ces choses futiles, c'est d'apporter cette bonne nouvelle de la lumière de Dieu qui vient éclairer les mondes. Il est demandé que nous mettions en avant, dans nos paroles, dans nos vies de tous les jours, cette prédication de la bonne nouvelle de Jésus. Ici, il n'est pas parlé de faire de l'évangélisation, c'est-à-dire de prendre un temps spécial dans notre agenda pour aller vers des personnes pour parler de Dieu. Il est parlé que puisque nous sommes été transformés par la lumière du Christ, puisque Jésus nous a rachetés de notre vie de péché, il est dit que nous devons prier, briller pour Christ. Et lorsque nous brillons pour Christ, nous faisons l'évangélisation, nous proclamons Jésus-Christ. Il est dit que nous devons mettre en avant Jésus-Christ et rien d'autre. Non pas nos propres arguments, non pas notre Église ou tout ce qu'elle peut faire bien peut-être dans la vie des personnes, mais uniquement de proclamer Jésus seul. Voilà pourquoi que justement dans le prochain dia, il est parlé encore dans ces versets que nous devons partager clairement la parole de Dieu, d'une façon compréhensive pour les personnes, dans la vérité totale, en toute simplicité, afin que les personnes autour de nous, justement, comprennent la vérité de Dieu et voient en nous que nous avons la lumière, que nous pratiquons cette lumière du Seigneur. Et le verset 6 le dit bien. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, rappelez-vous, tout au début du commencement de la terre, de la Genèse, a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. A lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Cette lumière qui est venue sur cette terre à travers ce petit enfant qu'on a fêté il n'y a pas très longtemps, se rappelle que Jésus est venu comme un simple enfant, en toute humilité, mais qui est venu apporter cette lumière à travers sa vie jusqu'à son sacrifice sur la croix. Ce Jésus est venu resplendir dans les ténèbres, afin que les hommes voient cette lumière et puissent glorifier Dieu de sa grande bonté, le fait que Dieu s'est fait homme pour venir s'approcher de l'humain, pour faire resplendir la gloire de Dieu. Et dans la suite des versets, Paul va énumérer les conséquences de porter cette lumière en nous. Regardez dans le verset 7. Mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non nos propres capacités. Le commentateur biblique MacDonald va dire que le trésor en question n'est autre que le glorieux message de la bonne nouvelle. Donc l'expression des vases de terre désigne le corps fragile humain. Nous sommes en tant qu'humains fragiles. Nous venons de la terre, de la poussière, et nous retournons à la poussière. Mais que veut dire ce contraste entre le trésor et les vases de terre? Le message de la bonne nouvelle que nous sommes appelés à partager autour de nous ne vient pas de nos arguments, ne vient pas de notre intelligence ou notre savoir, mais uniquement par la puissance de Dieu en nous, par le Saint-Esprit. Donc, dans cette nouvelle année, nous sommes appelés, nous, hommes et femmes fragiles de notre corps terrestre, à partager et à proclamer cette bonne nouvelle de la lumière de Christ. Voilà le trésor que nous avons, que nous avons acquis à travers Jésus-Christ. Et même si nous sommes fragiles de nature, par notre santé, par notre vie éphémère sur cette terre, nous portons ce trésor pour pouvoir le proclamer, pour le vivre, pour briller, pour que les gens puissent entendre cette bonne nouvelle du Christ. Et comme on l'a dit, cette bonne nouvelle ne vient pas de nous, mais vient de la puissance de Dieu qui agit en nous à travers le Saint-Esprit. Et dans la suite du verset 8 et 9, c'était plus difficile à entendre, surtout peut-être au début de l'année. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Nous aimerions dans cette nouvelle année, c'est vrai, de vivre de belles choses, avoir peut-être plus une meilleure vie, plus facile peut-être, moins compliquée, plus de bonnes choses. Mais ces versets 8 et 9 nous rappellent que le mystère avec Jésus n'est pas un chemin tout rose sans difficulté. C'est un chemin qui est difficile. Qui est difficile, c'est vrai pour tous les humains. Mais c'est vrai qu'en tant que chrétien, encore un chemin plus difficile parce que l'ennemi veut justement que nous ne resplendissons pas de cette lumière. Alors oui, dans cette année 2026, c'est vrai que nous allons peut-être vivre toutes sortes de détresses, toutes sortes de problèmes, de souffrances. Vous avez peut-être pu voir au début de l'année qu'est-ce qui s'est passé en Suisse à Crans-Montana dans ce bar où il y a eu plus de 40 jeunes hommes, jeunes femmes qui ont péri, plus d'une centaine de blessés, de grands brûlés. Et c'est vrai que ça m'a touché un peu cette histoire parce que c'est vrai que c'est dans notre pays, on connaît très bien cette place. Et de voir que malgré peut-être toutes les précautions qu'on a aujourd'hui, quelque chose peut très bien arriver. Imaginez. Quand on voyait toutes ces familles endeuillées qui sont venues, ces jeunes, des 16 ans, qui sont venues fêter, célébrer la nouvelle année, et en un claquement de doigts, ont péri dans l'incendie. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Et c'est vrai que ça touche de savoir que cette nouvelle année devait être une année de réjouissance pour ces jeunes, pour ces familles, et qui aujourd'hui vivent encore le deuil. C'est le lot de chaque être humain de vivre des détresses.
Même si nous savons qu'en tant que chrétien, ça, on va être attaqué justement par le diable qui veut nous faire chuter, nous détourner de la grâce de Dieu. Mais toutes les situations qui sont citées dans ce verset, Paul va rajouter un autre mot pour dire que nous ne sommes pas écrasés ou désespérés, pas abandonnés, pas anéantis. Imaginez ce matin, dans ce premier dimanche de l'année, le Seigneur veut nous dire que nous serons accablés par toutes sortes de détresses, mais non écrasés. Que nous allons être désemparés, mais non désespérés. Que nous allons vivre la persécution, mais nous ne serons pas abandonnés. Que nous allons être terrassés, mais nous ne serons pas anéantis. Ce qui veut dire qu'à la différence de nombreuses personnes qui passent par des temps de détresse, comme toutes ces familles avec ce drame en Suisse, on va vivre des temps difficiles. Mais il y a un espoir. Car même dans la pire détresse, nous ne serons pas écrasés. Et quand je préparais l'image qui m'est arrivée, c'est Job. L'ennemi voulait détruire Job parce que Job était fidèle, était juste. Et Dieu a accepté que la souffrance, la persécution arrive sur Job. Mais il a dit, tu ne toucheras pas à sa vie. Donc l'ennemi a été capable de faire enlever de faire périr tous ses enfants, d'enlever toutes ses richesses, de lui donner une maladie qui souffre énormément. Mais même dans tout ce qu'il a vécu, Job, il est resté fidèle à Dieu. Même qu'il n'a pas toujours compris, même qu'il a fallu qu'il comprenne réellement pourquoi les choses se sont arrivées. Mais dans toutes ces grandes afflictions, Dieu était présent avec lui. Et Dieu n'a pas permis que l'ennemi puisse prendre sa vie. Nous pouvons tous être désemparés devant une situation qui peut nous arriver. Mais avec l'aide de Dieu, nous ne sommes pas désespérés. Nous pouvons être persécutés à cause de notre foi en Jésus. Et quand on parle de persécution, on nous rappelle tous ces chrétiens à travers le monde de plus en plus qui vivent des persécutions physiques, qui sont éloignés de leur famille, qui sont rejetés. Mais même dans ces pires souffrances, dans ces pires persécutions, ils ne sont pas abandonnés. Nous pouvons être terrassés par la maladie, par la souffrance, comme la perte d'un enfant, comme ce drame dans ce bar en Suisse, mais nous ne sommes pas anéantis. Tous ces mots qui ont été rajoutés par Paul peuvent nous dire que nous avons un espoir. Nous avons une confiance que notre Dieu est là avec nous, qu'il sera à nos côtés dans les temps les plus difficiles, qui devrait nous encourager et briller encore plus pour le Seigneur. Et c'est là qu'on voit justement dans le verset 10 quelque chose d'un peu plus difficile à réaliser, à comprendre, mais tellement criant de vérité. Il est dit dans le verset 10, oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. Donc Paul veut dire que la vie d'un serviteur de Dieu se vit dans la mort à lui-même. Et ça d'une façon permanente. On meurt à nous-mêmes pour que Christ vit en nous. Jésus qui a connu dans sa vie terrestre rejet, violence, persécution, mais ceux qui vivent dans la vérité de Dieu vont vivre aussi la même situation. Et Paul va même dire que cela va se transformer en bénédiction pour les autres. La mort quotidienne à nous va donner la vie aux autres. Et il le dit dans le verset 15. Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux et qu'ainsi augmente le nombre de prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. Paul dit que nous allons endurer comme détresse, comme persécution, comme souffrance. Tout cela contribue que la grâce de Dieu abonde pour les personnes qui sont autour de nous, puissent voir que les enfants de Dieu ne sont pas écrasés, ne sont pas désespérés, ne sont pas abandonnés, ne sont pas anéantis, comme on a pu le voir dans les versets 8 et 9. Alors, je vous annonce une primeur, peut-être que vous connaissez déjà, de cette année 2026. Plus vous allez vivre des problèmes et des épreuves dans votre vie, plus ces choses vont aider d'autres personnes à s'approcher de Dieu et à le glorifier. Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? C'est complètement le contraire de la pensée actuelle de ce monde, qui veut enlever la souffrance, qui préfère donner la mort à des personnes en fin de vie, avec l'aide médicale à mourir, et ils appellent ça un soin médical. Chaque fois que je sens ça, ça me fait tressaillir de rage de dire, ils appellent ça un soin médical, de donner la mort à quelqu'un parce qu'il souffre trop, parce qu'il ne veut plus aller de l'avant. Je vous le répète à chacun de nous, Ne vous inquiétez pas, toutes nos difficultés que nous essayons de surmonter dans la vie, tout cela va contribuer pour notre bien, c'est-à-dire le bien de notre personne, de nos familles, de nos caractères, nos tempéraments, mais pour que le mystère de Jésus puisse aller de l'avant, et même plus pour que le bien d'autres personnes autour de nous. C'est vrai, peut-être ça peut être un peu décourageant au début de l'année de dire, ben, on va nous annoncer des détresses, des persécutions, des souffrances. Oui, c'est vrai, peut-être on va perdre encore des personnes chères à nous. Peut-être qu'on va vivre des accidents, peut-être encore des maladies, peut-être des épreuves qui vont peut-être nous terrasser. Mais le Seigneur veut nous dire, dans tout ce que tu vas vivre, rappelle-toi que je suis là avec toi. Rappelle-toi que je suis mort pour te donner la vie et que tu vis à travers moi. Et que tout ce qui va arriver, je vais t'aider pour que tu puisses resplendir de la gloire de Dieu. Plus nous endurons les défis, les épreuves, plus nous nous formons à l'école de vie que le Seigneur nous propose, plus nous avons besoin du secours de notre Dieu pour compter entièrement sur lui, plus notre témoignage de vie sera grand et va fortifier de nombreuses personnes autour de nous. Et tout cela, c'est pas forcément pour se vanter, parce qu'on a réussi à passer à travers des épreuves ou nous glorifier personnellement de ce qu'on a accompli, mais uniquement pour dire, Seigneur, dans tout ce que je vais vivre, dans toutes les épreuves, les souffrances, je veux glorifier toi parce que toi, tu étais là à côté de moi, parce que tu as accompli cela sur la croix pour me donner la vie et pour m'aider dans nos épreuves. Je me rappelle que justement, lorsqu'on vous partageait justement tout ce qu'on a vécu dans notre appartement dans les dernières années, combien de personnes sont venues vers nous, qu'ont entendu parler de nos situations? Comment ils ont dit que c'était insurmontable de ce qu'on vivait de telles persécutions? Pourquoi qu'on ne quittait pas? Pourquoi qu'on acceptait cela? Qu'il fallait faire d'autres choses, etc. Ils ne comprenaient pas comment qu'on arrivait à supporter de telles choses. Mais je vois qu'aujourd'hui, c'est un témoignage. Je vois qu'aujourd'hui, Dieu a utilisé des choses difficiles pour permettre que la gloire de Dieu se manifeste. Parce que nous pouvons le dire, nous, on ne compte pas sur nos propres forces, mais on compte sur Dieu. Alors oui, aujourd'hui, on peut dire que toutes les difficultés rencontrées sur notre vie, sur notre route, toutes les épreuves que nous avons dû affronter en 2025 et que nous allons affronter en 2026, elles sont là pour nous former. Elles sont là pour nous permettre de ne pas regarder à nous, à notre propre capacité, mais de lever les yeux vers celui qui nous a donné la vie, d'aller chercher vers notre Seigneur son aide et sa force. Voilà pourquoi que dans le verset suivant, verset 16, il est dit, est tellement vrai pour nous. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Hein? Pasteur Herman, il a passé une nouvelle étape, une nouvelle année dans sa vie de tous les jours. Chacun de nous aussi, hein? On grandit, on vieillit aussi, on voit que nos forces des fois nous diminuent, on voit que peut-être que notre être extérieur se détériore, mais il est dit intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Amen. Nos cœurs, notre corps extérieur s'épuise, les forces manquent des fois, et on voit peut-être le poids des années. Mais heureusement, la dernière phrase de ce verset m'encourage. C'est vrai que si extérieurement, nous voyons des rides et des cheveux gris apparaître, intérieurement, je suis encore plus jeune et encore plein de fougue. Je suis renouvelé jour après jour par le Seigneur et plein de vigueur pour persévérer sur la route de la vie. Et voilà pourquoi qu'à chaque jour, je remercie Dieu, même si peut-être j'ai moins de force, même si je peux faire moins de choses qu'avant, de dire, Seigneur, toutes ces années que je passe, même aujourd'hui, c'est merveilleux. C'est vrai qu'on entend souvent que peut-être la vieillesse, oh, c'est difficile et comme ça, c'est vrai que peut-être pour beaucoup, c'est peut-être plus difficile que la jeunesse. Mais se rappeler que chaque temps que Dieu nous permet de vivre, c'est une grâce que Dieu nous donne. Ce verset, c'est comme une promesse pour chacun de nous. Plus les années passent, plus notre corps extérieur peut diminuer, comme avec l'âge ou avec la maladie, plus nous savons qu'intérieurement, nous allons toujours avoir autant de force, de vigueur et d'enthousiasme. C'est pourquoi que Paul va continuer dans le verset 17, que les épreuves que nous allons vivre sont légères et éphémères. Il dit, en effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Le premier terme que nous voyons devant les épreuves que Paul mentionne, c'est éphémère ou passagère, qui veut dire que c'est pour un temps, que ce n'est pas pour toujours, juste un temps déterminé, même court, même si peut-être pour nous c'est des mois, même des années, c'est court dans la vie de l'éternité. Et c'est vrai que pour celui qui passe par une maladie, c'est difficile, c'est difficile. Mais même dans ces temps de maladie, de difficulté, qui peut aller chercher, cette personne peut aller chercher dans la présence de Dieu sa force pour être capable de surmonter, d'être capable de pouvoir voir, dire Seigneur, même ces détresses sont légères, passagères, parce que la gloire à venir est plus grande. Le deuxième terme dans ce verset est léger, qui veut dire que nous allons pouvoir les surmonter, même si nous voyons comme des montagnes. Ce que Paul veut dire, c'est que oui, les épreuves sont là et peuvent nous faire mal. Mais devant ces situations, même si notre corps est fatigué ou malade, que nous allons avoir la force de résister, de vaincre ces épreuves par les forces que Dieu va nous donner intérieurement, comme il est dit dans le verset 16. Alors pour chacun de nous, lorsque la prochaine épreuve va arriver, de se dire, ce défi est là pour me former, il est là pour un temps. Ce défi va me permettre de me construire, me former et surtout de rendre gloire à Dieu autour de nous. Tout cela arrive dans un but de nous préparer pour l'éternité, comme il est dit dans le verset 17. Voilà l'espérance devant les épreuves, même par celui qui passe par une maladie grave ou qui vit une situation qui le dépasse complètement. Toutes ces choses sont éphémères, reliées à notre vie ici-bas. Ce sont peu de choses devant l'éternité que nous allons vivre avec le Seigneur. Et nous voyons que Paul va conclure dans le verset 18. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Paul nous encourage à ne pas nous attacher aux choses visibles, c'est-à-dire à ce que nous voyons autour de nous, ce que nous pouvons vivre comme situation ou défi dans notre vie, mais de regarder aux réalités invisibles, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, de vivre cette grâce, cette espérance que Dieu nous donne. De puiser nos forces, non pas dans celles de notre corps physique, qui est fragile, qui vieillit, mais dans les forces spirituelles, intérieures que Dieu nous donne. Voilà l'espérance que chacun de nous, nous pouvons avoir, devant des situations que nous allons pouvoir vivre peut-être en 2026. Des choses peut-être que nous n'allons pas comprendre sur le moment. Peut-être devant la maladie, devant la perte d'un être cher, devant les épreuves diverses que nous allons pouvoir vivre, mais de rester dans cette espérance, de dire, Seigneur, je regarde en haut aux choses invisibles, aux choses que tu m'as promis, aux choses que tu seras là avec moi et qu'un jour je serai avec toi pour l'éternité, qu'un jour mon corps terrestre sera enlevé pour que je puisse vivre pour l'éternité avec toi. Comme il est dit dans la suite du verset 18, ces choses que l'on voit ne durent qu'un temps, ne peuvent pas dépasser la durée de notre vie ici-bas. Parce qu'un jour, nous allons être libérés de toutes nos souffrances, de tous nos désespoirs, de toutes nos peurs, de tout ce qui nous empêche de vivre une réelle liberté, et cela pour l'éternité. Alors, dans cette nouvelle année, est-ce que nous pouvons prendre ces versets comme une vérité pour nous? Est-ce que nous pouvons aller dans cette espérance que nous allons vivre? Oui, peut-être des temps difficiles. Oui, peut-être des épreuves qui vont nous dépasser, peut-être. Mais tout cela va contribuer à notre bien et encore plus au témoignage pour d'autres personnes qui vont nous voir vivre et qui vont exalter le nom du Seigneur. Alors, nous sommes devant cette table du Seigneur qui nous rappelle qu'il est mort. Lui, le Fils de Dieu, qui a accepté de mourir sur la croix pour nous donner la vie. Il a été jusqu'au bout des souffrances, des persécutions. Il a été même abandonné par son Père sur la croix. Mais il est ressuscité le troisième jour pour nous donner la vie. Alors, prenons simplement un petit instant pour réfléchir, dire Seigneur, devant ces versets que tu m'interpelles, est-ce que je peux te faire confiance dans cette année 2026? Premièrement, pour abandonner, rejeter tout péché, toutes choses qui m'empêchent de vraiment d'avancer avec toi. Peut-être ce sont des péchés qui sont secrets, peut-être des péchés qui sont récurrents, mais le Seigneur veut nous dire, il est mort sur la croix pour nous donner la liberté en lui. Peut-être c'est des choses qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur, qui ne sont peut-être pas des péchés, mais des habitudes, des façons de faire des choses, des peut-être des idées, des projets qu'on a dans notre vie, qui nous empêchent de vraiment que Dieu puisse vraiment nous utiliser pleinement pour que nous puissions briller dans ce monde. Je crois que c'est l'année 2026. Dieu veut qu'on brille encore plus. Dieu veut que notre Église brille un peu encore plus. Mais pour cela, il faut que chacun de nous, nous puissions briller. Nous puissions être ce témoignage, même dans les temps difficiles, afin que le monde reconnaisse et loue le nom du Seigneur pour la foi, pour la persévérance, pour la confiance que nous avons en notre Dieu. Peut-être demander à notre Seigneur ce matin, Seigneur, oui, donne-moi cette espérance, donne-moi cette confiance en toi, qu'il y a bien des choses dans ma vie que je ne pourrais pas contrôler, même par rapport à tout ce qui se passe. Comme on l'a vu, la vie peut partir d'un souffle de vie tellement rapidement. Est-ce que je vais consacrer cette année 2026 à continuer de grandir avec le Seigneur, mais surtout à partager cette bonne nouvelle autour de nous? Je crois que le Seigneur nous appelle à être cette lumière, à briller. Dans le début de cette nouvelle année, nous sommes invités à venir à cette table pour prendre ces éléments qui représentent son corps, son sang qui a été versé pour nous, comme un engagement encore de pouvoir le suivre. De le remercier encore que dans cette année 2026, Jésus-Christ est encore mort pour nos péchés et qui nous donne la vie. Pour se rappeler encore que c'est vrai qu'il y a plus de 2000 ans qu'il a été persécuté, outragé, mis à mort, mais que cette réalité, cette vie est encore là pour nous aujourd'hui et encore pour des millions d'autres personnes à travers ce monde. Il veut encore que ce corps, que ce sacrifice qu'il a fait puisse encore glorifier son nom, qu'il puisse encore, surtout encore, permettre que des hommes et des femmes puissent le recevoir, puissent entendre cette bonne nouvelle de l'Évangile, puissent briller dans ce monde pour la seule gloire de Dieu. Alors nous sommes invités à venir devant cette table avec ce désir, en même temps, de remercier Dieu pour le pardon de nos péchés, pour ce sacrifice qu'il a fait, mais aussi pour un engagement de dire, Seigneur, comme toi tu as brillé sur la croix, que je puisse briller dans ma vie de tous les jours, que dans toutes les situations que je peux vivre, même ceux qui sont très difficiles pour moi, je puisse être un témoignage pour toi. Parce que je regarde non pas aux choses visibles, aux choses terrestres, mais je regarde à toi. Alors avant d'entendre la confession, l'invitation à cette table, simplement, on vous encourage à vous lever comme un signe, dire Seigneur, oui, dans cette année 2026, je viens devant ta table avec foi, avec confiance que tu seras là avec moi, que tu continues de me pardonner mes péchés, tu continues d'enlever, de me travailler, me transformer pour que je puisse être à ton image et pour que je puisse briller pour le Seigneur. Cette invitation que le Seigneur nous adresse, si vous vous repentez sérieusement et sincèrement de vos péchés, si vous vivez dans l'amour et dans la paix avec votre prochain, si vous menez une nouvelle vie en suivant les commandements de Dieu, si vous marchez dans ses saintes voies, si vous vous approchez de lui par la foi, si vous prenez ce saint sacrement pour votre consolation, adressez dans une humble prosternation une confession, cette confession honnête au Dieu Tout-Puissant. Donc, unissons-nous dans cette confession générale qui dit Dieu Tout-Puissant, Père notre Seigneur Jésus-Christ, Créateur de toutes choses, juge de tous les hommes. Nous confessons que nous avons péché et que nous sommes profondément attristés en pensant à toutes les choses mauvaises de nos vies passées. Nous avons péché contre toi, ô Dieu saint, et contre ton amour. Nous ne méritons que ton indignation et ta colère. Nous nous repentons et nous regrettons profondément d'avoir mal agi et de ne pas avoir accompli les actes que nous aurions dû faire. Nos cœurs sont contrits et nous reconnaissons que nous sommes désespérés sans ta grâce. Accorde-nous ta clémence, Père miséricordieux. Pardonne-nous par égard par ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Pardonne-nous et purifie-nous. Donne-nous la force de te servir et te plaire en nouveauté de vie, en t'honorant et en louant ton nom, grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, que nous puissions tous ensemble continuer cette confession en disant la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, notre Père céleste, par amour, tu nous as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, pour souffrir la mort et la croix pour notre achat. Ton Fils qui, par son sacrifice, s'est offert une fois pour toutes, a accompli une expiation suffisante, parfaite et totale pour les péchés du monde entier. Nous venons maintenant à la table par obéissance à ton Fils Jésus-Christ, qui dans son Saint-Évangile nous ordonne de commémorer de façon perpétuelle sa mort précieuse jusqu'à son retour. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit en donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été donné pour vous, garde vos corps et votre âme pour la vie éternelle. Prenez et mangez ceci en mémoire de Jésus-Christ, mort pour vous, et nourrissez-vous de lui dans votre cœur par la foi, avec action de grâce. De même, après le repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour vous garde vos corps et votre âme pour la vie éternelle. Buvez cette coupe en mémoire du sang de Jésus-Christ répandu pour vous et soyez reconnaissants. Alors on peut se lever pour la bénédiction du Seigneur qui veut nous donner pour cette année 2026. Dieu fait encore des choses spécial à travers nous. Il l'a fait sur la croix. Il continue de le faire à chacun de nous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos corps, vos cœurs et vos esprits dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit sur vous maintenant et à jamais. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis, on souhaite à tous une bonne année, saluez-vous les uns les autres et restons dans la présence de Dieu pour que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester à travers chacun de nous.